sur l'important. La vérité est absolue, elle ne peut jamais être relative pour la bonne raison qu'elle nous vient de Dieu. De plus, il nous faut encore affirmer une autre chose. La vérité absolue de Dieu ne peut être sujette à interprétation. En Jean chapitre 8 et verset 30, il nous est révélé que comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. L'action de croire est donc subordonnée à la compréhension de ce qu'il annonce. On ne peut en effet croire sans comprendre et sans entendre la vérité. Par ailleurs, la connaissance et la compréhension du message public produit la foi. Ceci nous amène tout naturellement à la question, si la vérité est relative, et si nous ne pouvons la comprendre et y croire de manière semblable, comment la vérité pourra-t-elle produire une foi? Nous voyons donc que discerner la vérité implique nécessairement de le faire de la même façon, puisqu'elle ne peut positivement susciter qu'une seule foi. Nos actions doivent nécessairement refléter notre connaissance et notre croyance de la vérité annoncée par Dieu. L'apôtre Jean déclare sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Les chrétiens du premier siècle, ayant compris et cru à la vérité, suivaient cette même règle. Jean dit en parlant à Caïus, « J'ai été fort réjoui lorsque les frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Cela nous rappelle ce qu'Amos avait dit, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus ?» Comprendre la vérité et y adhérer de la même façon que tous les autres vrais chrétiens, c'est céder à grandir dans une meilleure connaissance de la parole de Dieu. C'est précisément ce qui incite Paul à nous dire, « Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. De même, l'apôtre Pierre exhorte les chrétiens en ces termes, « Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » C'est pourquoi on ne peut, une fois la vérité connue, que la comprendre tous d'une manière absolument identique. Il est par conséquent impossible de croître dans la connaissance de la vérité de Dieu sans la comprendre. Nous sommes persuadés que la parole de Dieu peut être comprise de la même manière par tous, parce que Dieu, dans sa miséricorde, l'a voulu ainsi. Il existe dans la Bible d'innombrables passages dans lesquels Dieu ordonne à l'homme d'écouter et de comprendre sa divine volonté. Le Dieu de grâce et de bonté aurait-il demandé une chose irréalisable? Écoutons par exemple l'apôtre Paul nous dire en Éphésiens 5, 17, « Ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Jésus lui-même rassembla une multitude de gens devant lui et s'écria, « Écoutez et comprenez !» Cela ne se retournerait-il pas contre notre Dieu si nous étions incapables de comprendre la Bible? Ne nous mettrions-nous pas tous à douter de sa puissance et de son intelligence si nous voyons tenter notre Dieu de nous faire saisir quelque chose et piteusement échouer? Tout cela ne mettrait-il pas également en cause son immense amour et sa perfection infaillible? Ne limitons donc pas sa force et sa grandeur en essayant de trouver des excuses pour ne pas nous pencher sérieusement et honnêtement sur sa parole pour l'étudier et l'appliquer à notre vie spirituelle. Il est curieux de constater qu'autrefois, chacun avait une excellente intelligence des Écritures et qu'aucune division n'existait à ce sujet. Comment se fait-il donc qu'il n'en soit plus de même de nos jours? Sous l'Ancien Testament, la loi de Moïse était parfaitement saisie par tous. Et lorsque les Juifs s'éloignaient des voies de l'Éternel, et cela leur est arrivé hélas fréquemment, ce n'était jamais à cause d'une mauvaise compréhension des directives de leur Créateur. Prenons par exemple le 8e chapitre du livre du prophète Néhémie, qui relate que tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui était devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur d'Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes, et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Oui, le peuple d'Israël comprenait la parole de l'Éternel. Par ailleurs, nous pouvons encore lire dans le Nouveau Testament, cette fois, que Jésus, durant tout son ministère public, développa encore le sens de la compréhension et de ses divers auditoires. Cet enseignement atteignit son point culminant lorsqu'il se concrétisa par l'établissement de son Église et la prédication de l'Évangile au monde. Luc rapporte que le Christ dit « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. » Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, continue-t-il, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Oui, Jésus ouvrit leurs esprits pour qu'ils comprennent les Écritures. Il promit aux apôtres la puissance d'en haut, le Saint-Esprit, et le jour de la Pentecôte, cet Esprit descendit sur eux pour remplir sa mission qui était de les guider tous dans la vérité. Lorsque les 3000 obéirent à l'Évangile le jour de la première Pentecôte après la résurrection de Jésus, avaient-ils compris la raison de leur acte? Ce jour-là, avaient-ils entendu prêcher plusieurs doctrines différentes à propos du salut? Dites-moi, combien d'églises différentes furent-elles établies ce jour mémorable? Il est aisé de lire le livre des Actes et de voir que la parole de Dieu était alors prêchée, comprise, crue, obéie. Il est évident que rien n'a changé et que la même chose est encore aujourd'hui possible. On peut facilement étudier tous les exemples donnés par le livre des Actes et par conséquent entendre le même message, comprendre le même message, croire au même message et obéir de la même exacte manière. Quelqu'un osait-il me dire le contraire? Alors, au premier siècle de notre ère, un Éthiopien revenait de Jérusalem où il avait été adoré Dieu. Il lisait l'Ancien Testament tout en roulant sur son char. Il n'était toutefois pas chrétien. Le Saint-Esprit envoya alors vers lui un prédicateur de l'Évangile nommé Philippe qui lui demanda « Comprends-tu ce que tu lis ?» Si cet Éthiopien avait compris que le prophète Ésaïe parlait de lui-même et que Philippe, quant à lui, ait saisi que le serviteur dont parlait Ésaïe était Jésus de Nazareth, il aurait fallu nécessairement que l'un d'entre eux se soit trompé. Il était impossible qu'ils aient été d'accord tout en ayant compris ce passage de la Bible de façon différente. Or, il n'en était rien, puisque les deux hommes avaient tous les deux parfaitement saisi ce dont il s'agissait. Il est donc nullement étonnant de les voir tous deux en parfaite harmonie d'esprit au sujet d'un commandement de Jésus, affirmant que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, puisque Philippe lui avait annoncé la bonne nouvelle de Jésus. En réponse à cette prédication, l'unique dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe de dire, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Le nœud répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Et la Bible dit qu'il fit arrêter le char et Philippe et le nœud descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa le nœud. Philippe avait parfaitement compris que Jésus avait ordonné le baptême à tous ceux qui désiraient être sauvés. La parole était claire, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le nœud, lui aussi, avait compris, puisqu'en tant que croyant en Christ, il dit, « Voici de l'eau. » Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et pourtant, chers amis, combien de gens se disant profondément religieux n'enseignent-ils pas que le baptême n'est pas essentiel au salut, qu'il n'en est qu'un élément accessoire et pas du tout nécessaire? Il y a peu de temps encore, on pouvait entendre un grand prédicateur fort connu dire à la télévision, on est sauvé par la grâce de Dieu, mais ne demandez pas comment, car je n'en sais rien. Quelques instants auparavant, il s'était adressé à un auditoire de plusieurs milliers de personnes et avait affirmé, « Vous tous qui croyez en Jésus-Christ, descendez des gradins, venez tous vous asseoir ici, au premier rang, et acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, et vous serez sauvés. » L'eunuque dont nous venons de parler était en parfaite harmonie d'esprit, il avait le même sentiment que Philippe. Tous deux avaient parfaitement compris qu'un ordre du Seigneur doit être obéi. Ils étaient d'accord, ils étaient unis, car tous les deux n'avaient eu qu'un seul désir, faire toute la volonté de Dieu. Voyez-vous, il suffit d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle est et d'écouter sincèrement Dieu nous parler. Oui, on peut parfaitement comprendre la Bible de la même manière. Lisons encore en guise de conclusion un verset des Écritures où Dieu s'adresse directement à nous lorsqu'il